Bonjour à toutes et à tous, Catherine Manon au micro pour vous proposer de nous mettre à l'écoute des psaumes de la Bible. Nous continuons de nous intéresser aux psaumes qui ont été choisis dans le calendrier des messes dominicales et en parcourant successivement les trois années du cycle liturgique des dimanches. Et nous regardons surtout comment les lectures de la messe éclairent le choix du psaume ou de quelques versets qui en ont été choisi. Nous avons déjà parcouru les années A et B. Notre itinéraire nous amène aujourd'hui au troisième dimanche ordinaire de l'année C, dont le psaume est le psaume 19 dans la numérotation hébraïque ou 18 selon la numérotation latine. Le psaume 19 comporte en tout 15 versets, mais il est construit en deux parties distinctes et complémentaires. D'abord les versets 1 à 7 qui exaltent le Dieu créateur du cosmos, le soleil, les étoiles, comme dit le verset 2, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Ensuite les versets 8 à 15 sont un émerveillement devant la loi que Dieu donne aux hommes pour les conduire au bonheur. Et c'est dans cette deuxième partie qu'ont été choisis les versets pour ce troisième dimanche ordinaire, les versets 8, 9, 10 et 15. On a donc malheureusement écarté le magnifique verset 11 que je vous lis parce qu'il résume parfaitement l'admiration du psalmiste pour la loi. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons, aussi ton serviteur en est illuminé. Voilà, ce psaume 19 met donc en évidence ce qui fait surtout la spécificité humaine, c'est-à-dire la relation consciente avec le Créateur qui leur communique une loi comme une sorte de mode d'emploi pour un bon usage de leur vie. La question qui se pose pour les chrétiens est jusqu'à quel point sommes-nous encore concernés par cette loi que Moïse a transmise au peuple hébreu ? Le Christ n'a-t-il pas tout changé dans notre rapport à Dieu ? C'est une question qui se posait déjà pour saint Paul, et nous allons voir que la réponse n'est pas tellement évidente. Mais pour commencer notre émission, je vous propose d'écouter le psaume 19 tel qu'il est chanté pour la messe, donc du troisième dimanche ordinaire de l'année C, dans la version du père Jean-Paul Lécaud.
Tes paroles, Seigneur,
Regardons maintenant comment les textes du troisième dimanche ordinaire C expliquent le choix des versets du psaume 19 que nous venons d'entendre. Voyons d'abord la première lecture qui est tirée du livre de Néhémie, les 10 premiers versets du chapitre 8. Le lien avec le psaume 19 est ici immédiatement évident puisqu'il raconte un épisode qui se situe après le retour d'exil des Hébreux dans le temple qu'ils viennent tout juste de reconstruire, où le peuple se réunit pour y entendre une lecture publique de la loi. Et l'émotion est immense parce que les années d'exil avaient anéanti toutes leurs pratiques religieuses et la loi avait été oubliée. Ce sont donc des retrouvailles dont on imagine sans peine qu'elles bouleversent profondément tous ceux qui sont présents. Le texte de Néhémie est malheureusement beaucoup trop long pour que je vous le lise, mais je vais quand même vous en dire quelques versets. Le prêtre Esdras apporta la loi en présence de l'assemblée. Il fit la lecture dans le livre depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens et on pouvait comprendre. Voilà, donc nous voyons dans ce texte que l'exil avait fait tellement de mal, et surtout paradoxalement au petit peuple resté en Terre Sainte, occupé par les Babyloniens, qu'ils avaient fini par oublier l'hébreu. Il fallait donc qu'on traduise les textes en araméen pour qu'ils puissent être compris. Et aussi que les prêtres les interprètent et en expliquent le sens. Et voici ce qu'ils disaient. « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas, car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. » Esdras leur dit encore, « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu, ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. » Donc le message, c'est que la loi de Dieu est faite pour apporter la joie. Alors, je vous propose d'écouter maintenant une version du psaume 19 qui veut illustrer cette joie de l'écoute de la parole de Dieu. Il est ici chanté par l'ensemble Dédicace.
La joie du Seigneur est notre rempart, ses paroles sont esprit et vie.
La joie du Seigneur est notre rempart, ses paroles sont esprit et vie.
La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie.
La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les simples.
La joie du Seigneur est notre rempart,
ses paroles sont esprit et vie.
Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur.
Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La joie du Seigneur est notre rempart, ses paroles sont esprit.
La crainte qui l'inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables.
Désirable que l'homme, une masse d'enfants, plus amoureuse que le miel qui coule des rayons. La joie du Seigneur est notre rempart, ses paroles sont esprit et vie.
Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance.
Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi
La deuxième lecture du troisième dimanche ordinaire de l'année C continue le texte de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens, chapitre 12, versets 12 à 30, c'est-à-dire une lecture particulièrement longue. Mais il faut bien reconnaître qu'il n'aurait pas été facile de raccourcir ce texte où Paul développe une argumentation qui fait un tout parfaitement abouti. Je vais essayer de résumer un peu. Saint Paul y expose comment il conçoit l'organisation idéale de la communauté des chrétiens, ce qui est en fait particulièrement problématique à Corinthe, ce qui explique cette insistance de Paul. Le fond de son argumentation, c'est toujours le modèle théologique de l'unité dans la diversité. Mais il ajoute ici un modèle plus concret de mise en pratique, puisqu'il compare le corps de l'Église avec le corps humain. Je vous lis par exemple les versets 11 à 13. Prenons une comparaison. Notre corps forme un tout, il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Et il en est ainsi pour le Christ. Tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par l'unique esprit. Voilà, ensuite vient un long déploiement pour illustrer l'absurdité des conflits internes et des coteries. Le pied aura beau dire « je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps ». Eh bien, il fait toujours partie du corps, dit saint Paul. Il continue ensuite le même raisonnement avec l'illusoire opposition entre l'œil et l'oreille. Puis il va aller à l'essentiel de son exposé, verset 18. « Dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. » Et un peu plus loin, toujours la diversité dans le corps, au verset 25. « Dieu a voulu qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. » Et encore au verset 28. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui sont chargés d'enseigner, puis ceux qui font des miracles, ceux qui ont le don de guérir, ceux qui ont la charge d'assister leurs frères ou de les guider, ceux qui disent des paroles mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre, etc. Donc, saint Paul parle d'une nécessaire organisation du corps ecclésial selon une volonté de Dieu. Il semble bien que le désordre, l'anarchie et les conflits sont mauvais pour la vie du corps, ce qui nous ramène en fait à ce que dit le psaume 19. La vie doit obéir à des lois, mais ces lois sont là pour apporter la joie et le bonheur. Alors ça peut sembler évident, mais ce n'est pas si facile à accepter pour tout le monde. D'ailleurs, je vous propose d'écouter ici une méditation sur le psaume 19 qui expose un peu cette difficulté.
La loi du Seigneur est limpide. Elle chante la joie de mon cœur, elle chante la joie de mon cœur.
La loi du Seigneur est la vie,
La loi du Seigneur est limpide, elle libère la joie de mon cœur. Nous croyons connaître ta loi, nous en déclinons les impératifs de 1 à 10. Nous croyons savoir par cœur ce qui est permis en décompte de ce qui est défendu. Nous l'avons appris des livres et des lévites, de génération en génération. Seigneur, nous t'avons transformé en maître de grammaire, en précepteur sourcilleux de morale. Et le monde est devenu triste et gris, comme un mauvais matin d'école. Pourtant, la beauté du firmament, l'harmonie de la terre, le chant du psalmiste et le souffle du prophète nous invitent sans cesse à une nouvelle création. Quels sont ces préceptes qui sanctifient les plus humbles de tes serviteurs et qui rendent la vie? Parce que ta loi est la grâce et le don et le pardon tout ensemble? Parce qu'elle propose un chemin d'humanité et de communion? Parce qu'elle t'associe avec intimité à chaque vivant? Elle bouleverse l'ordre de nos habitudes et ignore nos commandements? Elle porte des paroles impensables, amoureuses, saisissantes, offrandes toujours posées au-devant de nous? Cette loi qui invite simplement chacun à être aimé, la démesure de ton amour pour nous.
Revenons un instant sur le problème que soulève la deuxième lecture du troisième dimanche ordinaire C par rapport au psaume 19. Bien que saint Paul lui-même relativise l'importance de la loi pour les chrétiens, en particulier dans son épître aux Romains, les réalités de la vie communautaire le font réfléchir sur la nécessité d'accepter une organisation et certaines règles de vie sociale. Mais ces règles ne vont pas s'opposer à l'unité qu'apporte l'Esprit-Saint dans le corps ecclésial. La diversité des dons est une chance à condition que l'on n'oublie jamais de faire de cette multiplicité un instrument de l'unité du corps du Christ. Sinon, on arrive à une absurdité que saint Paul dénonce avec un certain humour, hein. La tête qui est en conflit avec les pieds ou l'œil qui s'oppose au travail de la main. Et pourtant, si on regarde l'état global de la chrétienté d'aujourd'hui, tellement divisée, on a parfois l'impression que c'est bien ce que l'on a continué de faire à travers les siècles. Ce texte de saint Paul devrait vraiment nous inciter à œuvrer pour l'œcuménisme et l'unité des chrétiens. Alors seulement le commandement de Dieu sera vraiment respecté, commandement de l'amour réciproque, mais aussi respect, comme le dit le verset 10 du psaume 19, des décisions du Seigneur qui sont justes et vraiment équitables, parce qu'elles conduisent à la paix et au bonheur. Avant de continuer les lectures des textes du troisième dimanche, je vous propose donc d'écouter de nouveau le psaume 19 dans une version plus paisible, un peu ancienne, puisqu'elle date de 1994. La traduction et la musique sont du Père Gélino et il est chanté par les frères de Thésée.
Observez les grands. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi nul empire. Alors je serai irréprochable et pur du grand péché.
Nous pouvons lire à présent l'évangile du troisième dimanche ordinaire de l'année C et voir les liens avec le psaume 19. Il s'agit des premiers versets de l'évangile selon saint Luc, auxquels on ajoute les versets 14 à 21 du chapitre 4 du même évangile de Luc. Et c'est sur cette deuxième partie de la lecture que nous allons nous concentrer. Je vous lis d'abord ce texte. Lorsque Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues des Juifs et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres, aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Voilà, donc cet évangile est un moment important dans la vie de Jésus où il affirme publiquement qu'il accomplit l'attente d'Israël, donc qu'il est le Messie espéré et annoncé par le prophète Isaïe. Alors, puisque c'est le thème de notre émission, maintenant, quel rapport peut-on trouver entre ce texte et le psaume 19 ? Ça ne saute pas aux yeux. Il faudrait d'abord pouvoir ajouter, à mon avis, une petite phrase charnière, celle du prologue de l'évangile de Jean, « Le Verbe s'est fait chair ». Alors, on peut comprendre que Jésus, en tant que Messie consacré par l'onction divine avec la puissance de l'Esprit, il incarne maintenant en lui-même la loi d'Israël, la loi parfaite qui redonne vie. C'est alors tout l'enseignement de Jésus, notre Seigneur, qui peut incarner pour nous la loi à laquelle nous aimons obéir parce qu'elle nous rend heureux. Et chanter, comme le verset 9 du psaume 19 le dit, « Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. » Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Et maintenant, pour terminer notre émission, je vous propose d'écouter le psaume 19, chanté ici en grec par les moines du mont Athos. Et je vous dis au revoir, chers auditeurs, et à très bientôt.
Pire.